Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, la balle est dans le camp des dirigeants mondiaux. Ils se retrouvent aujourd'hui au siège de l'ONU à New York pour le sommet Action Climat. Mais seule la moitié des 136 chefs d'État et de gouvernement ont répondu présent et les absents sont de taille. États-Unis, Australie, Brésil. Et pourtant, urgence il y a en Europe comme ailleurs. En Espagne, par exemple, la désertification concerne plus de 30% du territoire. En cause, les mauvaises pratiques agricoles, l'urbanisation, mais aussi le changement climatique. Des citoyens et une association, Reforesta, tentent d'inverser la tendance en reboisant. C'est le reportage de Diane Cambon.
C'est un sol compact, crevassé et desséché. Il crisse sous les pas de Cecilia Barbero, docteur en écologie qui travaille depuis 3 ans pour Reforesta, une association dédiée à la lutte contre la désertification. Entre les chardons cramoisis et les genêts avachis, elle se faufile pour accéder aux jeunes arbres plantés l'an dernier. Certains sont morts, d'autres ont survécu à l'été. Ces terres semi-arides se situent à 1 heure de Madrid, à la frontière de la Castille et la Manche, une région appartenant à l'Espagne sèche en raison des faibles précipitations. C'est ici, entre le fleuve du Tage et les champs agricoles surexploités, qu'ont été plantés ces quelques 600 arbres. Pas n'importe lesquels, comme explique Cecilia.
Ce sont des espèces qui doivent être très résistantes au manque d'eau et surtout des espèces autochtones qui font partie du lieu. On parle d'une végétation méditerranéenne adaptée au changement de température extrême, froid et chaud, et au manque d'eau. Ici, nous sommes dans une zone très déboisée. Il n'existe pratiquement pas de semences forestières naturelles. Donc, nous essayons d'accélérer le processus en plantant directement les pousses d'arbres qui fourniront par la suite des graines pour créer de la végétation.
La déforestation ne date pas d'hier en Espagne. Si elle a commencé avec la reconquête au XIVe siècle, elle s'est accélérée au lendemain de la guerre civile en 1939. De nombreuses pentes montagneuses sont alors dénudées pour le bois de chauffage et deviennent des terres agricoles. Enfin, l'urbanisation moderne et l'agriculture industrielle à grande échelle ont terminé de déboiser une bonne partie du territoire, le rendant stérile. En 2008, face à la pression des écologistes qui tirent la sonnette d'alarme, le gouvernement de l'époque approuve un ambitieux plan national contre la désertification. Or, la plupart des mesures ne verront jamais le jour, comme l'explique Miguel Ángel Ortega, président de Reforesta.
Les administrations en charge de la reforestation, de lutter contre l'érosion des sols, dépendent des régions autonomes. Et là, les résultats varient selon la volonté de chaque région. Mais le bilan général est que la grande majorité des projets ont été paralysés à cause de la crise économique.
Face à ce déficit de fonds publics, Reforesta s'appuie sur l'aide des volontaires, en suivant une stratégie de développement bien réfléchie, comme l'explique Cecilia.
Notre méthode de travail consiste à planter peu, mais à planter de façon sélective et surtout bien entretenir les arbres, venir les arroser. Ici, il faut arroser à la main avec des seaux, car le terrain est escarpé et malgré tout, les conditions sont tellement dures que peu de nos plantations survivent.
Mais le combat contre la désertification ne se limite pas à planter des arbres. La fertilisation des sols passe également par des pratiques agricoles durables et respectueuses. Guillermo est un agriculteur de la région de la Castille-la-Manche qui défend le bon sens, comme il aime le répéter. Pour cela, il a choisi d'abandonner la culture des céréales, trop exigeante en irrigation, au profit de l'amandier, un arbre peu gourmand en eau et surtout adapté à ce climat sec.
J'ai pensé que cet arbre serait adapté à l'environnement et j'ai changé ma façon de cultiver. Je laboure très peu pour que les matières organiques nourrissent la terre en azote et retiennent l'eau. Et ensuite, on a mis des plantes aromatiques autour pour attirer les abeilles qui servent à polliniser et qui m'alertent sur les maladies.
En faisant la promotion d'une agriculture raisonnée, l'Espagne pourra peut-être ralentir la désertification de son territoire. Mais un autre facteur aggravant est entré en jeu, celui du réchauffement climatique, dont les conséquences pourraient se révéler catastrophiques.
Et en Italie, c'est 1/5 du territoire qui risque de se transformer en désert, estime un des principaux syndicats agricoles. Et les températures vont continuer à grimper de 3 à 6 degrés en plus d'ici la fin du siècle, Cécile Debarge. À chaque vague de chaleur, c'est la même question. Que deviendra l'Italie, où les températures sont déjà élevées en été avec le réchauffement climatique? Le dernier épisode de sécheresse remonte à l'été 2017, après un printemps très doux, un été sec et un tiers de précipitations en moins sur les 6 premiers mois de l'année 2017. Les grands lacs du pays, qui sont aussi des réserves d'eau vitales, se sont retrouvés bien en dessous de leur capacité. La ville de Rome a même dû imposer à l'époque une coupure d'eau des robinets 8 heures par jour. Les fontaines de nombreuses villes avait été éteinte. Cette année, fin juin, un incendie sur un parking de Noto dans le sud de la Sicile a relancé les scénarios catastrophes. La chaleur et la sécheresse ont favorisé la propagation d'un incendie. 40 voitures ont été complètement brûlées. Pourtant, cette année, le risque de sécheresse est presque nul grâce à des pluies exceptionnelles au cours de la première partie de l'année. Mais sur le long terme, le pays devra revoir une partie de l'aménagement de son territoire. Selon le Centre euro-méditerranéen pour les changements climatiques, un cinquième du territoire italien risque de se désertifier. Il y a les périodes de sécheresse, bien sûr, mais aussi l'épuisement progressif des ressources du sous-sol et le manque de valorisation des activités agricoles dans les régions les plus sensibles. Selon les prévisions du centre, les températures moyennes en Italie pourraient augmenter entre 3 et 6 degrés d'ici la fin du siècle, avec un climat beaucoup plus extrême, alternant périodes de sécheresse et périodes de fortes pluies. C'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé cette année. Peu de pluie les 4 premier mois de l'année, puis un mois de mai avec rafales de vent, fortes pluies, grêles et inondations. Le pays devra donc intensifier son plan d'aménagement du territoire en développant des infrastructures capables de retenir l'eau. Actuellement, seul 11% de l'eau de pluie est captée dans des bassins. L'étude de la Col di Reti estime l'impact de la sécheresse à 14 milliards d'euros de dégâts sur la production agricole nationale et sur les infrastructures au cours des 10 dernières années.
Et dans ce paysage aride, la France n'est pas épargnée. En ce début d'automne, 88 départements font toujours l'objet de restrictions d'eau, si bien qu'un drôle de métier qu'on croyait en voie de disparition est en train de renaître. Sourcier, des professionnels mais aussi des particuliers les sollicitent et leur demandent de trouver des sources d'eau sur leur terrain. Alexis Bédu a rencontré un sourcier en région parisienne.
Je m'appelle Rémi Lavigne, je suis sourcier bénévole et mon travail c'est de chercher de l'eau.
Qu'est-ce qu'un sourcier? Quelle est votre définition du sourcier?
C'est quelqu'un qui se promène, je dirais, qui est dans la nature et qui est en une relation particulière avec elle et qui, à l'aide des baguettes, va pouvoir se trouver ou chercher, on va dire, l'eau. Et surtout la chercher, parce que la trouver, on ne la trouve pas toujours. Donc, je suis dans mon jardin, je me mets en convention mentale, dans l'esprit de rechercher la veine d'eau. Donc, mes baguettes sont positionnées en parallèle, je dirais à 90 degrés par rapport à mon corps. Et donc, j'avance en direction de la veine. Donc, je marche lentement et je me suis concentré sur la détection de la veine d'eau. Donc là, je suis à la verticale de la veine d'eau.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Les baguettes se sont complètement croisées.
C'est comme ça que vous faites pour trouver de l'eau?
Oui, tout simplement. C'est à la portée, on va dire, de tout le monde, ça dépend de la sensibilité des gens.
Alors, les gens font appel à vous pour trouver de l'eau?
Oui, les gens me contactent souvent pour trouver de l'eau, pour leurs besoins, soit pour arroser leur jardin, pour arroser leur pelouse. Bon, parce que une pelouse qui est jaunie, ça déplaît à beaucoup. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les particuliers, propriétaires de maisons individuelles qui ont un jardin, on va dire, de 400 ou 500 mètres carrés, mais qui veulent creuser un puits ou faire un forage. Donc là, moi, j'essaie de leur trouver une solution, s'ils ont de l'eau. Mais par contre, je les persuade aussi un petit peu de se tourner aussi. Le forage c'est bien, mais si tout le monde fait des trous et prend de l'eau, ça va accentuer, on va dire, la pénurie d'eau encore plus rapidement. Donc moi, je les encourage aussi à mettre des cuves et à récupérer l'eau pluviale. Donc là, on est sur la veine, donc il ne me reste plus qu'à trouver la profondeur. Là, je vais compter. Normalement, le pendule se mettra à tourner lorsqu'on va arriver à la profondeur. Donc là, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. 50 mètres. Donc là, je vois qu'à 40 mètres, il a commencé à bouger. Donc je vais reprendre à 35, 36, 37. C'est pour ça que les gens me contactent. C'est parce qu'ils veulent absolument trouver de l'eau. Ceux pour lesquels je ne trouve rien sur leur parcelle sont un petit peu déçus.
C'est un métier d'avenir avec le manque d'eau.
Oui, mais s'il n'y a plus d'eau, je dirais que c'est plus un métier d'avenir. Quand le jour où il y aura plus d'eau, ça sera, on va dire, la fin des sourciers. Faut préserver, faut l'économiser.
La sourcellerie, comme on l'appelle, une pratique ancestrale, mais non reconnue scientifiquement et pas très durable, comme le reconnaît le sourcier Rémi David. Et on passe à un tout autre sujet, le mal logement. Là encore, ce sont des particuliers qui se mobilisent et qui agissent. À Lille, le propriétaire d'une grande maison a eu une idée toute simple, louer les chambres vides de son logement à des touristes de passage et financer ainsi des logements pour les sans-abri. Un projet qui a depuis pris de l'ampleur et qu'il a baptisé Ch'tit Maison Solidaire. Reportage dans le nord de la France, signé Lise Verbeck.
Christophe est banquier et il habite une grande maison à une vingtaine de minutes à pied de la Grand Place de Lille.
Bonjour Lise.
Bonjour.
Enchanté.
L'idée de la Ch'tit Maison Solidaire est née il y a 2 ans d'une belle amitié avec Tony, un Rome. Christophe faisait des maraudes avec lui dans des bidonvilles lillois pour une association.
On a commencé tout de suite à se tutoyer et tout, donc vraiment au courant, ça passait tout de suite. Il n'a pas eu un regard de juger. On était à l'égalité. Malgré que moi j'étais... personne, lui c'est un banquier et tout, donc lui il était là pour nous aider quoi.
Un jour, Christophe apprend que Tony, sa femme et ses 2 enfants seront expulsés de leur squat et qu'ils vont se retrouver à la rue. La question de les héberger se pose alors.
J'avais des contraintes, des engagements, et j'étais pas très volontaire à abandonner toute mon intimité. Même si là, Tony en l'occurrence, on avait eu le temps de devenir les meilleurs amis, découvrir qu'on fonctionnait pareil, ben, il venait avec sa famille et ses 2 enfants, maintenant 3, c'était une autre vie à la maison.
Cette solution prise dans l'urgence n'est pas la solution pour Christophe et c'est là qu'il se met à gamberger sans un mot à Tony.
Christophe, il m'a pas en parlé tout de suite, mais t'inquiète pas Tony, on va prier. Il m'a dit ça. Il m'a pas répondu, t'inquiète pas Tony. Je vais t'aider.
Utilisateur régulier de la plateforme Airbnb, Christophe décide alors d'en détourner l'usage.
Donc l'idée a été plutôt d'accueillir des touristes qui viennent ponctuellement, qui viennent pour 2 et 3 nuits, on sait quand ça se termine, avec l'argent qu'ils reversent, pouvoir payer le loyer de Tony et sa famille, le mettre à l'abri. Il faut savoir qu'en fait, grâce à ça, en fait, on a trouvé une vraie solution du partage. L'abbé Pierre dit « la misère n'est pas une fatalité, elle résulte juste de notre incapacité à penser le partage ».
J'en ai mes chaussures.
S'il vous plaît.
Oui.
Ça, c'est la grande chambre.
Vous avez combien de mètres carrés dans la maison ?
Au total, 150 mètres carrés.
La maison de Christophe est assez grande pour accueillir régulièrement des touristes. Avec 90 nuits louées, Tony a pu payer un vrai loyer d'un vrai appartement pour 1 001 nuits.
Ça m'a permis d'avoir un logement, de ne pas craindre des procédures d'expulsion et tout ça. Donc... quand on a où dormir, tout le reste, on arrive à trouver.
Trouver des logements pérennes, c'est donc là toute l'idée de la Ch'tit Maison Solidaire. Et Tony n'est pas le seul à avoir bénéficié de cette solidarité l'année dernière. Avec 17% d'occupation des chambres de la maison de Christophe, 3 autres familles dans le besoin ont pu être relogées. Quant aux personnes qui louent les chambres via Airbnb, elles ignorent souvent tout du projet. Mais Rachid, lui, avait attentivement lu le profil de Christophe sur la plateforme. Ce Parisien cherchait une chambre en attendant de trouver un appartement à Lille.
Je vois ça juste sur écran et je dis, je trouve ça cool. Ça m'a arrangé bien, l'endroit avait l'air pas mal. C'était la première fois que je voyais quelqu'un qui disait, ça va aider pour après le premier truc qu'on dit. Mais c'est génial d'avoir cette idée de reverser. C'est ce qui m'a attiré, moi, et c'est ce qui m'a permis d'aller plus ici qu'ailleurs. C'est quand même beau, non ?
Oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu Rachid, du coup, nous.
Et Rachid est même devenu ami avec Christophe. Il lui donne un coup de main dès qu'il peut pour récupérer des clés ou accueillir de nouveaux locataires. Et peu à peu, la Ch'tit Maison Solidaire grandit. À Lille, 25 autres hôtes solidaires, comme ils s'appellent, louent ponctuellement leur chambre d'amis. Christophe, lui, a pris une année sabbatique pour lancer un autre gros projet. Il veut construire un éco-quartier avec des tiny houses, ces petites maisons mobiles de 20 mètres carrés. Il veut les installer sur des friches à Lille pour créer une vraie mixité sociale, c'est-à-dire réunir ceux qui n'ont pas de problème d'argent mais qui souhaitent plus de minimalisme et ceux qui ne peuvent pas payer un loyer trop élevé. Ce projet s'appelle Lille Pousse. Il est soutenu par la métropole européenne de Lille et un financement participatif vient d'être lancé.
Bref.
is alive. Divide yourself just as much as they lie to you.
Qui sont les hackers russes? Doit-on les craindre? Au terme d'un an et demi d'enquête, les journalistes Boris Razon et Étienne Huvert publient Les Nouvelles Guerres sur la piste des hackers russes aux éditions Arte Édition et Stock, un livre doublé d'un documentaire. Étienne Huvert a raconté à Margot Turgy quel était le profil type de ces hackers.
C'est un monde très masculin, malgré tout. C'est vrai qu'au cours de cette enquête, on a rencontré quasiment aucune femme. Ce qui est très intéressant pour nous et ce qu'on a voulu comprendre dans cette enquête, c'est quels étaient les liens qu'ils pouvaient avoir avec les services secrets, de quelle manière ces gens, qui sont malgré tout des gens aussi autonomes et qui ont un goût de l'aventure, qui ont un goût du défi, qui ont un rapport à l'autorité qui est assez complexe, pouvaient être recrutés par des services secrets. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous a motivés.
Et alors justement, quel est leur lien avec les services secrets?
Avec les services secrets russes, c'est des liens qui sont assez complexes parce que ce sont des gens qui restent indépendants dans leur état d'esprit. Par contre, pour l'État russe, il y a un vivier. Et c'est ça qui est assez intéressant, il y a un vivier. Et surtout, ces hackers, ils se sont construits dans un rapport à l'Occident extrêmement complexe. C'est-à-dire que beaucoup ont commencé dans les années 90, dans les années 2000. Ils avaient des familles qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et donc, attaquer l'Occident, attaquer d'abord des personnes riches en Occident, essayer de voler des cartes bleues, ça c'était quelque chose d'extrêmement important pour eux. Et il y a un vivier cybercriminel qui s'est créé. Ça, c'est une réalité qui est assez spécifique à la Russie. Et c'est un vivier dans lequel les services secrets peuvent puiser.
Dans une grande partie de votre livre, on vous suit dans votre recherche de l'interlocuteur qui vous permettra d'infiltrer le forum utilisé par ces hackers russes. Mais vous allez d'échec en échec parce que votre terrain d'investigation est particulièrement sensible. Pourquoi est-ce que c'était important de détailler ces rencontres infructueuses?
C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quasiment au départ une enquête impossible. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui ne veulent pas parler, qui sont vraiment cachés, qui veulent pas montrer leurs activités. Et donc, il fallait qu'on arrive à montrer ce qui se passe vraiment. Et donc, il y a des forums, on peut y accéder. Le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a une barrière linguistique et qu'après, il faut un certain nombre de capacités techniques et que les personnes qui sont capables ici en Occident d'aller sur ces forums, il y en a finalement pas des milliards, même parmi les hackers. Pénétrer ces forums de hackers russes, comprendre ce qui s'y passe, quels en sont les enjeux, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, ça prend beaucoup de temps de trouver les personnes qui sont en mesure de nous aider à aller sur ces forums et de comprendre ce qui s'y passe. Et quand on voit ce qui se passe sur ces forums, on arrive dans un monde vraiment assez hallucinant. C'est-à-dire que non seulement on échange des capacités d'attaquer, de pénétrer des infrastructures de banques, etc., mais pas seulement, il y a aussi des ministères, il y a aussi potentiellement d'autres entreprises, et on comprend que derrière les personnes qui achètent et qui vendent, il n'y a pas que des groupes criminels, il y a aussi des États.
Vous finissez par entrer, grâce à votre interlocuteur qui s'appelle Igor, dans le fameux forum donc qui est l'objet de votre enquête. Vous expliquez au départ que vous êtes déçu.
C'est vrai que le forum en tant que tel, il ressemble à rien. C'est quasiment un site d'annonce. Donc, en termes de forme, il n'y a pas quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Et à la fois, dès qu'on commence à rentrer dans le contenu des annonces, là, ça devient passionnant parce qu'on voit, par exemple, tous les accès au ministère de l'économie du Ghana qui sont à vendre, $150 000. Donc, on comprend qu'il y a des sommes extrêmement fortes. Et on sait que finalement c'est vendu parce que 15 jours plus tard c'est marqué solde. Tout se joue sur la réputation sur ces forums. Et donc, si la personne qui est en face n'a pas vendu les accès qu'elle a promis, évidemment elle va pas rester longtemps. On va la bannir définitivement. Donc on sait que ce business-là fonctionne. Après, rentrer dedans et aller plus loin dedans pour essayer de comprendre jusqu'où ça va et quels sont exactement les accès, il faut acheter, il faut devenir actif. Et nous, journalistiquement, évidemment, on n'a pas voulu rentrer là-dedans. Donc on a une certaine limite et on est resté, comme ils le disent eux-mêmes dans leur forum, au niveau bac à sable.
Étienne Huvert, co-auteur avec Boris Razon des Nouvelles Guerres sur la piste des hackers russes. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe. À demain.